Alors, bonjour à tous. Fait du bien de se retrouver après quelques semaines de pause des cours bibliques. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était notre frère Basile qui nous parlait de la doctrine des anges et de Satan. Et ce matin, on arrive maintenant à la doctrine de l'être humain. Après avoir considéré la révélation de Dieu, la personne de Dieu et ses œuvres, et puis à travers le fait qu'il a créé un univers, on étudie les anges, ceux qui font partie de la création de Dieu, et maintenant on arrive à l'être humain. Et on va essayer ce matin de regarder ensemble ce que la parole de Dieu nous dit sur l'homme. Les questions sur la nature de l'être humain, puis le but de son existence, ont toujours été au cœur des grandes questions philosophiques. Les philosophes, depuis le début des temps, l'homme s'est toujours questionné sur son existence. Qui est l'homme? Qu'est-ce qu'il fait sur la terre? C'est quoi le but de son existence? L'être humain, par la philosophie, a cherché, il continue de chercher à comprendre la nature des réalités qui existent et, en quelque sorte, la nature de l'homme. Qui nous sommes et comment nous pouvons les connaître? Alors, la question « qu'est-ce que l'être humain » ou « qui est l'être humain » est au cœur des questions qui animent les plusieurs visions du monde, les philosophies qu'on entend même de nos jours et même dans les temps passés, dans l'Antiquité, les Grecs se questionnaient sur la nature des réalités et de l'être humain. Puis aujourd'hui, bien, il y a plusieurs visions du monde qui nous offrent ce qu'ils pensent sur ce qu'est l'être humain. Mais ce qui nous intéresse, nous, de notre côté, c'est de comprendre ce que Dieu a révélé dans sa parole pour nous aider à comprendre qui nous sommes. Et qui est l'être humain et quel est le but de son existence. Et ce matin, on va aller chercher tenter de trouver des réponses aux questions, les questions ultimes de l'être humain, en étudiant ensemble ce que la Bible dit à ce sujet. Et puis, je vais vous inviter à tourner avec moi dans le livre de la Genèse, parce que c'est là que tout a commencé, quand Dieu a créé toutes choses. Et ce matin, on va lire un long passage. On va lire les deux premiers chapitres de la Genèse. Et pour moi, c'est important de revenir à ce texte, à se rappeler et de ce que Dieu a fait au moment de la création et pour quelles raisons l'être humain a été créé. Essayer de comprendre certaines questions par rapport à l'être humain, entre autres, que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être créé à l'image de Dieu? Et trouver à travers ça des réponses qui vont avoir un impact pour la vie de tous les jours. Lorsqu'on cherche à comprendre qui nous sommes et le but de notre existence, elle a un impact pour notre vie aujourd'hui, la vie de tous les jours. Et on veut certainement vivre selon la volonté de Dieu et à la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Donc, dans Genèse, au chapitre 1, je vais lire à partir du verset 1. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. » Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara les ténèbres, la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit dans des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et des oiseaux volent, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, leur bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créé en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, et on y trouve aussi le bdellium, la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gilon. C'est celui qui entoure tout le pays de Coche. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et il n'en avait point honte. » On va s'arrêter ici. On va dire un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci encore une fois pour le privilège qu'on a de pouvoir ouvrir ta parole ensemble ce matin, de pouvoir le faire en toute liberté, Seigneur. Merci pour, Seigneur, de t'être révélé à nous. Merci d'avoir vu notre misère et notre détresse spirituelle, Seigneur, là où on était dans notre péché, et d'avoir bien voulu, malgré notre péché, notre faiblesse, te révéler à nous, te faire connaître à nous. Et Seigneur, en apprenant à te connaître, en se tournant vers toi, vers ta révélation que tu nous as donnée par ta parole, Seigneur, on apprend à se connaître nous aussi, qui nous sommes. Est-ce que nous sommes devant toi, Seigneur? Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses ramener nos cœurs et nos pensées à ta parole pour qu'on puisse, dans ce monde qui suggère toutes sortes de réponses à ces questions, qu'on puisse trouver les réponses auprès de toi pour comprendre, Seigneur, quel est notre but dans cette vie. Et Seigneur, tu nous appelles à t'aimer, à te glorifier, à t'aimer de tout notre cœur, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à vivre pour toi. Et c'est pour ça qu'on est ici ce matin, Seigneur, parce qu'on veut entendre ta parole afin de pouvoir mieux vivre pour toi, afin d'être transformé par ta parole et ressembler de plus en plus à ton Fils Jésus. Aide-nous, Seigneur, ce matin à avoir des cœurs attentifs et que tu puisses nous parler à travers les Écritures ce matin et que ton nom puisse être glorifié dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. C'est un long passage que j'ai pris le temps de lire ce matin et c'était intentionnel de ma part de prendre le temps de lire ce passage-là dans toute sa longueur. Pourquoi? Parce que de nos jours, on vit dans une société qui nous suggère multiples réponses à la question, aux questions existentielles, aux réalités qui existent. Est-ce qu'il y a un Dieu qui existe ou non? Est-ce que l'homme a un but dans la vie? D'où il vient l'homme? Et toutes ces réponses-là qui nous sont suggérées de plus en plus dans notre culture à travers l'enseignement qui se fait dans les écoles, ceux qui ont connu les écoles confessionnelles à l'époque, vous étiez probablement... il y avait les catholiques et les protestants, et il y avait tous les deux une éducation religieuse dans les écoles. Aujourd'hui, on enseigne l'éthique et la culture religieuse. Qu'est-ce que c'est? On enseigne toutes les religions, toutes les philosophies du monde, et on ne prend pas position, mais on dit aux jeunes, faites votre choix à travers ça. C'est quand même, c'est quelque chose que j'apprécie, parce qu'une chose pour laquelle je l'apprécie, c'est que mes enfants sont quand même confrontés à d'autres croyances. Je leur enseigne la parole de Dieu, et puis là, ils sont confrontés à d'autres amis en classe, des musulmans, des Québécois, irreligieux peut-être, athées. Et puis là, le fait qu'ils apprennent sur ça, bien, ça m'aide à les enligner sur la vérité de la parole et en même temps de les encourager, de dire, bien, pourquoi nous, on croit ça, comparativement à ça? Fait que ça pousse leur réflexion. Mais en même temps, ce que ça prône de pouvoir enseigner toutes sortes de religions, de tout mettre sur le même pied d'égalité, ça enseigne un relativisme religieux. C'est que dans un sens, tu choisis ce que tu veux, puis ça fait ton affaire, c'est correct. Alors que lorsqu'on est croit en Dieu, lorsqu'on croit que Dieu s'est révélé, on croit que Dieu s'est révélé, que c'est la vérité, c'est ce qu'on devrait croire. Alors, dans toute cette culture qu'on vit, il y a toutes sortes de réponses qui nous sont suggérées. Et dans les deux premiers chapitres de la Genèse, et je crois que les deux premiers chapitres de la Genèse, sinon les trois, je vais dire, les trois premiers chapitres de la Genèse sont vraiment le fondement pour comprendre qui on est et notre relation, et dans notre relation avec Dieu. Donc, la question qui est devant nous ce matin, c'est qu'est-ce que l'homme? Qui est l'être humain? Et cette réponse-là peut seulement se répondre lorsqu'on regarde à l'origine de l'être humain. D'où vient l'homme? Qu'est-ce qui fait que l'homme existe? Je ne peux pas comprendre qui est l'être humain si je ne regarde pas où ça a commencé. J'essaie de... À toutes les fois que je vois, que je constate une réalité, j'ai devant moi un lutrin. D'où vient ce lutrin-là? Bien, il y a quelque chose qui a fait en sorte que ce lutrin-là existe aujourd'hui, qui est devant moi et qui m'aide à soutenir ma Bible et mes notes. Il y a une réalité, il y a une cause au fait que le lutrin est ici. La même chose pour l'être humain. Si je veux comprendre la réalité de l'être humain, le pourquoi il existe, je dois remonter à la cause qui fait en sorte qu'il est là, qu'il est présent. Donc, c'est ça notre question ce matin. On veut remonter à l'origine pour comprendre le but de l'homme et la raison pour laquelle il existe. On a plusieurs, comme j'ai dit, plusieurs philosophies qui nous parlent de l'homme, qui donnent des réponses. Les athées nous disent que Dieu n'existe pas et que l'homme, en quelque sorte, n'est pas le fruit de la création de Dieu. Au contraire, la matière a toujours existé. La matière est éternelle. Puis il est impossible d'expliquer l'existence humaine en dehors des réalités perceptibles à l'œil. Donc, l'homme est matériel. Et puis, vu que la matière existe depuis toute éternité, il y avait tout le potentiel dans cette matière-là et toute l'énergie qui était nécessaire pour qu'à travers un processus d'évolution, de réaction chimique, puisse arriver à un moment donné à apparaître la vie et la vie qu'on voit aujourd'hui. Et donc, on vit dans un monde purement matériel. La matière est éternelle. Elle a toujours existé. Et la nature et l'existence humaine ne peut s'expliquer qu'en étudiant la nature. Pour les athées qui rejettent l'existence de Dieu, c'est en regardant la nature qu'on va réussir à comprendre l'être humain. Alors, on cherche, on fait des fouilles archéologiques, on essaie de dater à quel moment l'homme, de quoi il ressemblait de là, tant de millions d'années à travers toutes sortes d'études scientifiques. Et puis, on essaie de comprendre comment l'homme en est venu à être ce qu'il est aujourd'hui. Mais, dans cette optique-là, l'homme n'a pas de composante spirituelle, et puis l'homme est simplement le résultat d'une évolution matérielle. Ce qui, à mon avis, n'est pas satisfaisant, parce que je crois qu'on a une dimension spirituelle à notre existence. On le voit dans toute l'histoire de l'humanité, et même encore aujourd'hui dans plusieurs cultures, il y a cette soif de l'homme de chercher à atteindre un idéal, ou même à connecter avec un être supérieur. Toutes les religions du monde, c'est ça en quelque sorte. C'est cette soif de l'être humain de remplir un vide spirituel, d'entrer en relation avec un être supérieur. Et l'athéisme rejette cette idée-là de spiritualité et selon moi ne répond pas à cette question-là. Mais comment traiter de la réalité spirituelle de l'homme, du bien et du mal, de l'existence du bien et du mal? Alors, insatisfaisant à mon avis. Il y a les agnostiques, pour eux, disent qu'il est impossible de connaître la vérité sur la nature et le but de l'existence humaine. L'agnosticisme dit, finalement, on n'est pas en mesure de connaître la vérité. C'est impossible d'arriver à un moment donné où on va connaître réellement quelle est la vérité. Et donc, ils vont rejeter toute affirmation de la vérité parce qu'il y a tellement de propositions qui nous sont faites que tellement difficile de choisir dans tout ça puis d'en arriver à une conviction certaine que ça, c'est la vérité, qu'on dit plutôt... La vérité n'existe pas. Et donc, ça se peut que ce soit Dieu, ça se peut que ce soit l'évolution, mais on ne pourra jamais le savoir. Ça, c'est ce que les agnostiques nous proposent. Il y a une autre philosophie qui est née au cours du 20e siècle, on appelle ça l'existentialisme. Ceux qui ont lu Jean-Paul Sartre, entre autres, un Français qui a écrit au 20e siècle, est un existentialiste. Cette philosophie-là affirme que l'existence de l'être humain ne s'explique qu'en termes de l'expérience humaine. En d'autres mots, pour comprendre qui est l'être humain, je n'ai pas besoin de regarder à son origine, mais plutôt à l'expérience qu'il vit à tous les jours. Alors, je regarde l'être humain, puis si je veux le comprendre, je n'ai pas à chercher à l'extérieur, mais plutôt à regarder l'expérience. Et dans un sens, la nature de son existence va définir qui est l'homme. Et c'est, entre autres, cette philosophie-là de l'existentialisme est née, entre autres, de la philosophie de Descartes, qui a affirmé une chose, une phrase très connue. Descartes a dit « Je pense, donc je suis ». Quel est le problème avec cette affirmation-là? En fait, ce que Descartes est en train de dire, c'est que présentement, dans mon expérience, je pense. Je réalise que je suis en train de réfléchir. J'ai cette capacité de réfléchir. Et cette capacité de réfléchir-là, ma raison m'amène à pouvoir définir qui je suis. Ah donc, qu'est-ce que Descartes a fait? C'est qu'il a inversé l'ordre qui existe en fait dans la réalité avec ce que Dieu nous a révélé. Je pense, donc je suis. L'expérience précède l'essence. Alors que ce que Dieu dit, c'est « tu es » et pour ça, tu as la capacité de penser. Parce que je t'ai créé, tu as la capacité de penser. Et à cause de ça, en quelque sorte, ce que nous, on est en train de dire, ce n'est pas notre expérience qui va définir qui nous sommes, mais plutôt notre origine, qui nous a créés et dans quel but il nous a créés. Et l'existentialisme a pris sa place, en quelque sorte, de plusieurs manières dans notre société, on l'entend aujourd'hui. Qui tu es, ça ne dépend pas des autres autour de toi, ça dépend de toi. C'est toi qui définis toi-même ton identité et qui tu es. Et aujourd'hui, ça prend sa forme dans toutes sortes de choses. Aujourd'hui, c'est le mouvement des LGBT, en quelque sorte, vont utiliser ça pour défendre leurs droits. Si moi, je nais comme un mâle, mais qu'à l'intérieur de moi-même, j'ai une identité que je me sens plus comme femelle, bien, c'est pas les autres, c'est pas qui je suis et comment j'ai été créé qui va définir qui je suis, c'est mon expérience. Et en réalité, mon identité, c'est pas ce que j'ai été à la naissance, mais plutôt ce que moi, je décide d'être. Et en quelque sorte, et là, on voit des mouvements de transgenre et d'identité sexuelle qui sont reliés à ça. Alors, dans mon expérience, je vis toutes sortes de choses je ne m'identifie pas à comment j'ai été créé. Et qu'est-ce qui arrive? Je renverse l'ordre créationnel et puis je décide moi-même qui je suis. Ça peut être ça dans toutes sortes de domaines. J'ai pris cet exemple-là parce qu'il est quand même un peu plus extrême et présent dans notre société. Mais si je veux définir qui je suis, moi, je ne suis pas comme ça, je n'ai pas été créé comme ça. C'est mon expérience qui décide qui je suis. Et ça, c'est l'existentialisme. On n'a pas à chercher à l'extérieur. Et alors que le théisme chrétien, ce que nous, on croit, va définir, en quelque sorte, ça d'une autre façon. J'existe parce qu'il y a un créateur qui m'a créé. C'est lui qui définit qui je suis. Et c'est lui qui m'a donné une identité. Et je dois me tourner vers lui pour comprendre réellement qui je suis, ce qu'il veut que je sois pour être heureux. Ce qui va faire que je vais être heureux dans la vie, je vais trouver mon bonheur, ce n'est pas parce que je décide moi-même qu'est-ce que je veux pour moi, mais plutôt en me tournant vers celui qui m'a créé avec un but particulier. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est qu'on cherche à comprendre notre identité, l'anthropologie, fondée sur les Écritures. Et c'est Robert Culver, un théologien, qui a défini l'anthropologie chrétienne, l'étude de l'homme chrétienne, de cette façon. L'anthropologie chrétienne n'est pas fondée sur l'étude empirique de l'humanité, en quelque sorte, l'observation de l'homme. Ce n'est pas là-dessus que c'est basé, avec toutes les variantes physiques et culturelles. elle tire plutôt sa théologie des récits bibliques de la création des premiers êtres humains. Donc, si on veut comprendre qui on est, on revient à la base. On revient à la source, la révélation de Dieu dans Genèse 1 et 2. Et c'est pour ça qu'on a lu Genèse 1 et 2 ce matin. Parce que pour moi, ça, c'est un texte fondamental pour comprendre qui nous sommes et qui nous aide aussi à comprendre comment on peut répondre à des gens de diverses positions philosophiques autour de nous, diverses positions religieuses. Alors, j'aimerais faire 8 observations sur ce qu'on trouve dans le récit de la création dans Genèse 1 et 2. Dans Genèse 1 et 2, on voit que Dieu a créé l'être humain. Dans Genèse 1, 26, 2, 7 et 22, on voit que l'homme n'est pas le fruit d'une évolution. Dieu l'a créé. C'est Dieu qui est à la source de l'existence de l'homme. Il l'a formé à partir de la poussière du sol. On lit chapitre 2, verset 7, qu'à partir de la poussière de la terre, Dieu a formé un homme. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insufflé dans ses narines son esprit, son souffle vivifiant. Alors, l'esprit qui anime, le souffle de Dieu, est rentré dans les narines de l'homme pour le rendre un être vivant. Donc, on voit dans les détails que Dieu était à l'œuvre, pas seulement dans la création de l'univers, puis qu'après ça, il y a eu une évolution, la création du ciel et de la terre, et qu'après ça, il y a eu tout un changement. Non, Dieu était directement impliqué dans la création de l'homme et de la femme. C'est lui qui les a formés, et c'est lui qui leur a donné le souffle de vie. Dieu, deuxième observation, Dieu a créé l'être humain à son image. Dieu n'a pas simplement créé l'homme comme un être comme les autres. Il l'a créé particulièrement à son image. On va voir un peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'être créé à l'image de Dieu? On va prendre le temps de quelques temps pour le regarder. Mais pour l'instant, ce qui est important de réaliser, c'est que l'homme est la seule créature ou que Dieu nous mentionne qui a été créée à son image. Les bêtes, Dieu a donné le souffle de vie aux bêtes, aux animaux, etc., mais jamais, à part l'homme et la femme, il va dire qu'ils sont créés à son image. Et on va voir un peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire. Mais ça, ce que ça fait, c'est en quelque sorte, ça m'amène au troisième point, c'est que l'être humain, finalement, est le couronnement de la création de Dieu. L'être humain est une créature semblable, créée semblable à Dieu, à la ressemblance de Dieu, mais ce qui le distingue de tout le reste de la création, mais en même temps, le distingue aussi de Dieu, parce que même s'il est à l'image de Dieu, il est une créature. Il n'est pas le créateur. Donc, il y a un créateur qui crée un être à son image, le fait qu'on peut ressembler à Dieu, mais ça ne fait pas de nous des dieux, ça fait de nous encore des créatures qui vivent sous la souveraineté de Dieu et en même temps, qui est supérieur au reste de la création. Le couronnement de la création de Dieu, encore une fois, c'est Culver qui dit « Le récit de la création est progressif. » Lorsqu'on regarde Genèse 1 dans son ensemble, c'est un récit progressif. Et l'homme en est le point culminant. Il ne fait aucun doute que la nature progressive du récit avait pour but de démontrer la supériorité de l'homme sur le reste de la création. Et donc, il faut voir, dans le fond, là, que le récit de Genèse 1, là, c'est que Dieu est en train de mettre en place les choses pour finalement arriver à la création de l'homme et de la femme. Et ce qui nous aide à comprendre ça, c'est que finalement, à la fin, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va donner à l'homme le pouvoir de dominer sur le reste de la création. Donc, Dieu a créé toute chose et arrive à la fin, un point culminant, il crée l'homme qui, lui, domine sur le reste de la création. Et ça, ça fait que l'être humain, c'est le couronnement de la création de Dieu. C'est une création à part des autres créatures. Quatrièmement, on voit que Dieu crée l'être humain en tant qu'homme et femme, mâle et femelle. Donc, c'est Dieu qui a décidé, à la base, qu'il y avait un homme, un mâle et une femme, femelle. Et c'est carrément les mots qui sont utilisés dans l'original. Il les a créés mâle et femelle. Et donc, tous les deux, autant l'homme que la femme, sont tous les deux créés à l'image de Dieu. On voit ça dans Genèse 1, 27. Il a créé l'homme et la femme à son image. Et qu'est-ce que c'est en train de nous dire? C'est qu'il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Ce n'est pas l'homme qui est créé à l'image de Dieu, puis la femme est inférieure. Elle n'est pas vraiment l'image de Dieu parce qu'il l'a créée par après. Non, les deux sont créés à l'image de Dieu. Et en tant que créatures, elles sont égales aux yeux de Dieu. Et ça identifie aussi le fait que Dieu donne à l'homme une identité sexuelle à la naissance ou au moment de la création, un homme et une femme. Dieu leur donne le mandat, cinquièmement, Dieu leur donne le mandat de se multiplier, de procréer d'autres êtres humains afin de remplir la terre. Genèse 1, 28. Donc, Dieu crée l'homme avec un but. Multipliez-vous. Et il dit, l'homme va quitter son père et sa mère, là, au chapitre 2, il va s'attacher à sa femme, les deux vont devenir une seule chair, et ensemble, ils vont avoir le mandat de représenter Dieu sur la terre en dominant sur la création et aussi en se multipliant. Sixièmement, on observe que Dieu leur donne la domination sur le reste de la création, dans 1,28, je l'ai déjà mentionné. Septièmement, on voit que Dieu a créé l'homme dans un état d'innocence. En quelque sorte, Genèse 2,25 nous dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Il était dans un état d'innocence, qui comprenait, qui ne voyait pas que la nudité, c'était quelque chose de mal. Aujourd'hui, à cause du péché, on dit « la nudité, c'est mal, on s'habille ». J'ai mis des vêtements avant de venir devant vous ce matin. Ça aurait été un petit peu bizarre. Hein? Mais dans ce temps-là, à l'époque de la création, c'était pas bizarre. Parce que Dieu les avait créés comme ça, dans un état où il n'y avait pas de mal dans la sexualité ou dans la façon dont Dieu nous avait créés. Donc, il était dans un état, je veux dire, d'innocence. Il ne connaissait pas encore le péché. Et huitièmement, Dieu a créé l'être humain avec la liberté de choisir ce qu'il veut. Dans les versets 15 à 17 du chapitre 2, Dieu va leur donner un commandement. Et je mets au milieu du jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis il dit, tu ne vas pas y toucher. Ça, c'est l'ordre que je te donne. Mais Dieu n'a pas tout fait en sorte que l'homme ne touche pas à l'arbre. L'homme avait la liberté de choisir ce qu'il voulait. Il avait une liberté. Et à ce moment-là, cette liberté-là n'était pas le péché. Ce n'était pas le péché encore. L'homme avait la possibilité de pécher ou de ne pas pécher. Et on va voir ça un peu plus loin ensemble. Mais ça, c'est toutes des choses qui nous aident, des vérités qui nous aident à comprendre qui est l'être humain et aussi en face de toutes sortes de philosophies autour de nous, à comprendre comment Dieu a créé l'homme pour mieux comprendre qui on est, puis aussi répondre à certaines affirmations. Donc, je pourrais aller dans toutes sortes de sujets, puis on pourrait avoir des conférences là, de toute une journée sur comment comprendre la domination de l'homme sur la terre. Par exemple, aujourd'hui, il y a des groupes activistes qui font en sorte qu'on protège tellement l'environnement, puis les animaux, puis tout ça, que l'homme est devenu un esclave de tout ça. Il faut les laisser vivre, c'est la nature. Puis on a mis la nature au-dessus de l'homme. On pourrait discuter de tout ça. C'est quoi notre responsabilité en tant que chrétien sur les questions environnementales? Dieu nous donne la possibilité de dominer, mais en même temps, à quel niveau, jusqu'à quel point on domine? Toujours sous la souveraineté de Dieu, etc. Fait qu'il y a plein de questions aujourd'hui qu'on vit dans notre culture, dans notre société, qui sont répondues lorsqu'on regarde les premiers chapitres de la Genèse. Mais on n'a pas le temps ce matin d'aller dans tout ça. Je vais aller plutôt dans le but de l'existence de l'homme. Dieu a créé l'homme dans un but. Premièrement, Dieu a créé l'homme et l'être humain pour vivre. Au départ, la mort n'était pas là. Dieu avait parlé de la mort. Si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un jour, si tu manges, tu vas mourir. Mais avant ça, la conséquence, la mort en quelque sorte est une conséquence du péché. La mort n'était pas dans le monde. S'il n'y avait pas eu de péché, l'être humain n'aurait pas connu la mort physique et spirituelle. Là, on se demande bien, comment ça aurait fonctionné, tout ça. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des hommes qui ne sont jamais morts, par exemple. On pense à Enoch qui a été enlevé au ciel. Comment ça serait arrivé? Est-ce qu'après une couple de milliers d'années, Dieu a dit, « OK, c'est correct, tu as fait ton temps sur la terre, viens avec moi, il vient nous chercher. » Je ne sais pas comment ça serait passé. Mais la mort est une conséquence du péché. Dieu a créé l'être humain, puis c'est ça mon point, pour vivre. Et quand je regarde les gens autour de moi, chrétiens ou non chrétiens, à moins de vivre une détresse vraiment profonde, les gens veulent vivre. J'avais un de mes voisins avec qui je discutais dernièrement. Il m'a annoncé qu'il avait un cancer, qu'il ne pouvait pas être opéré, puis que les traitements ne fonctionneraient pas. Puis il a appris qu'il allait mourir. Il connaît pas le Seigneur. Puis je prie pour Dieu pour me donner la grâce de pouvoir du temps pour pouvoir lui parler de l'Évangile. Mais qu'est-ce qui est venu dans son esprit quand il a appris ça? Il dit, j'ai pleuré pendant toute la fin de semaine. Un monsieur dans les 70 ans à peu près, il se dit, j'ai pleuré toute la fin de semaine. Pourquoi? Il aime la vie. Il veut vivre. Et en quelque sorte, l'être humain cherche aussi de toutes sortes de façons de régler les problèmes de santé pour pouvoir donner aux gens le plus longtemps de vivre parce que l'être humain veut vivre. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour vivre. Et la mort est une conséquence du péché. Donc, Dieu nous a créés pour vivre. Il nous a créés pour vivre. J'ai employé un terme latin ici qui est utilisé dans la littérature. Coram Deo. Ça veut dire, Coram Deo, ça veut dire dans la présence de Dieu. Dieu nous a créés pour vivre dans sa présence, pour vivre en relation avec lui. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils jouissaient de la présence de Dieu. Ils vivaient continuellement dans la présence de Dieu. On a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Et c'est ce que Adam et Ève expérimentaient à l'origine. Et puis, à cause de la chute, la présence de Dieu, à un moment donné, a été coupée. Ils ont été mis dehors du jardin où Dieu était présent. Ils ont été coupés de la présence de Dieu. Et par sa grâce, Dieu, en Jésus-Christ, veut rétablir la relation, veut venir rétablir, nous réconcilier avec lui pour qu'on puisse vivre dans sa présence pour l'éternité. Et déjà, à travers Jésus-Christ, on peut vivre dans la présence de Dieu, devant sa face, pour lui plaire, pour le glorifier. C'est ça le troisième point. L'être humain a été créé pour glorifier Dieu. Le but de l'existence de l'homme est implicite dans le passage de dans certains passages, Genèse 1 et 2, mais on le voit à travers les Écritures, que le but pour lequel on a été créé, c'était pour glorifier Dieu. Entre autres, je vais citer les passages du Nouveau Testament dans 1 Corinthiens 10, 31. Paul dit, « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Alors, le croyant qui est réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ a cette possibilité maintenant de vivre pour la gloire de Dieu, peu importe ce qu'il fait. Que ce soit manger ou boire ou n'importe quoi que je suis en train de faire. Je peux le faire au nom du Seigneur Jésus pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est un des buts pour lesquels Dieu nous a créés. Et entre autres, un des buts pour lesquels Dieu nous a recréés en Jésus-Christ, dans Éphésiens 1, 11 et 12. En lui, en Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. C'est quoi le but de notre existence? Vivre dans une intimité avec Dieu et vivre pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a créés. On va voir la semaine prochaine la doctrine du péché. On va comprendre que, dans un sens, le péché est venu tout bousiller la création excellente, très bonne, que Dieu avait créée. Le péché est tout venu bousiller ça. Mais à l'origine, et en Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'on vive pour sa gloire, qu'on vive en intimité avec lui. Et je vais dire comme ça, le summum de l'existence humaine, c'est d'être uni à Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que c'est être un être humain. Et on va aller voir un peu plus loin avec l'idée de l'image de Dieu dans l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Essayer de définir un peu c'est quoi ça, l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il l'a créé à l'image de Dieu, Genèse 1, 27. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, à l'image de Dieu? En fait, ce que je crois, c'est que l'être, en étant l'image, en étant la représentation de Dieu sur la terre, l'homme devait être le reflet de Dieu, le reflet de la personne de Dieu sur la terre, son représentant. comme le reflet dans un miroir. Donc, l'homme n'est pas Dieu, mais en regardant l'homme, je vois un reflet de la gloire de Dieu. Et donc, je suis, moi, là, comme ça, là, je suis comme un miroir en tant qu'être humain. Que les autres me regardent, puis à travers moi, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient la gloire de Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais à travers moi, ils peuvent voir sa gloire. Ils peuvent voir comment Dieu est glorieux. Mais si on veut comprendre comment Dieu est, on peut avoir une idée de sa personne en regardant les autres, l'être humain, comment il a été créé. Ça ne nous donne pas toutes les réponses, mais ça nous donne, en quelque sorte, des réponses. Et on voit que Dieu est un être intelligent, qui est capable de penser, comme l'homme a une raison, capable de réfléchir. Dieu a un cœur, une volonté. L'être humain est une personne qui a une volonté, qui a des désirs, qui affectionne les choses. Dieu est un Dieu d'amour, qui aime ses enfants. Et on voit à travers nous, à travers un père qui aime ses enfants, comment Dieu aime ses enfants aussi. Alors, on est le reflet de sa personne. On est capable de voir que Dieu est un être relationnel parce qu'on aime être en relation les uns avec les autres. On se marie, on a des enfants, on a une famille, on côtoie dans la société d'autres personnes. Et Dieu est un être relationnel aussi dans la Trinité. De toute éternité, Dieu est en relation. Le Père avec le Fils et le Saint-Esprit. Depuis toute éternité, Dieu est un Dieu relationnel. Donc, l'être humain, lorsqu'on le regarde, qu'on observe, on est capable de voir, on ne voit pas Dieu, on voit un reflet de sa gloire. Et ça, c'est une des choses qu'on peut noter. L'être humain, est à cause de ça, à cause qu'il le reflète sa gloire, et à cause du mandat que Dieu a donné à l'être humain est le représentant de Dieu. Anthony Okema va dire, « Comme un ambassadeur représente les autorités de son pays, de la même façon, l'être humain, homme et femme, doit représenter l'autorité de Dieu sur la terre. Comme un ambassadeur se soucie de faire avancer les meilleurs intérêts de son pays, l'homme cherche à faire avancer les intérêts de Dieu dans ce monde. » Donc, en dominant sur la terre, en ayant le pouvoir de dominer sur la création, le but de l'homme, c'est de représenter l'autorité de Dieu qui lui a légué ce pouvoir. Et donc, il représente Dieu lui-même. OK? Donc, en dominant, on est en train de représenter Dieu. On est des ambassadeurs, on n'est pas Dieu, on n'a pas tout le contrôle total. On domine sur la terre sous l'autorité de Dieu. Dieu nous a donné cette autorité, ça nous vient de lui, et nous, on l'exerce. Mais on l'exerce en étant sous son autorité. Si on veut comprendre, il y a plusieurs théologiens qui nous amènent vers là, et je pense que c'est une super belle réflexion, c'est la manière la mieux... La meilleure manière pour comprendre l'image de Dieu dans l'homme, c'est en regardant à Jésus-Christ, qui lui est l'image parfaite de Dieu. Le Dieu, le Fils de Dieu qui s'est incarné, qui était en relation parfaite avec Dieu et qui a servi le Seigneur tout le temps qu'il était sur la terre, qui n'a jamais péché. Lui, c'est le véritable être humain. En regardant à lui, on est capable de voir c'est quoi l'image de Dieu dans l'homme? Alors, un des arguments pour ça, c'est que Jésus lui-même est l'image déjà du Dieu invisible. Dans Colossiens 1,15, on l'a vu déjà en parlant de la Trinité. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Hébreux 1,3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Donc, Jésus est l'image de Dieu, une image parfaite. Et en regardant à Jésus, on a un vrai reflet. On a un vrai reflet de la gloire de Dieu, puis on est capable de dire, oui, si je veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire être un être humain, puis de vivre sur la terre, coram Deo, dans la présence de Dieu, je regarde à Jésus-Christ. Il était l'image parfaite de Dieu. Et comment il a manifesté cette image-là en tant qu'homme? Il a été entièrement dévoué à Dieu. Dans Jean 4, 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture, ce qui me nourrit, ce qui m'énergise, ce qui m'anime, c'est de faire la volonté de Dieu. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés dans cet état-là, pour qu'on soit heureux, pour qu'on puisse être vraiment hommes, des êtres humains vivants, c'est en vivant pour sa gloire, en faisant sa volonté. Et puis, à chercher à faire tout ce que Dieu veut, on le voit évidemment à travers tout le récit de la crucifixion et comment Jésus, malgré son humanité, a voulu faire la volonté de Dieu. Dans Matthieu 26, 39, il dit « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce qui me fascine à travers ce passage-là, c'est que Jésus, qui était Dieu, dans son humanité, ne voulait pas aller à la croix. S'il voulait absolument y aller, il n'aurait jamais fait cette prière-là. Dans son humanité, dans son incarnation, dans son abaissement, il regardait la croix et il disait, « Moi, je ne veux pas aller là. Si tu peux permettre que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais en bout de ligne, qu'est-ce qu'il dit? Mais ce qui est important, ce n'est pas ma volonté, c'est la tienne. Et lorsque je regarde à Jésus, des fois, je dis, « Seigneur, mon ami, ça ne me tente pas. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas. Ça, je veux absolument pas m'en aller là. Mais ma vie, elle t'appartient. Ce n'est pas ce que je veux, mais ce que tu veux que je vais faire. » Pas facile. Des fois, c'est tough. La montagne est haute à gravir. Puis Jésus avait toute une montagne à franchir, mais il a dit, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et je pense que à travers ça, on voit que Jésus reflétait réellement ce que c'est d'être à l'image de Dieu en étant entièrement dévoué à Dieu, dans une relation intime qui dépend de Dieu. On voit plusieurs choses, que Jésus était sans péché. Jésus n'a jamais péché, donc il était capable d'être le reflet de la gloire de Dieu parfaitement tout au long de sa vie. On n'aura pas le temps d'aller dans tous les passages. Jésus, en étant sans péché, était le reflet parfait de l'image de Dieu et de sa gloire, un représentant parfait de Dieu sur la terre. Il était aussi entièrement dévoué à son prochain, envers son prochain. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Il n'est pas venu pour accomplir ses propres intérêts, mais il est venu pour servir. Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Un autre aspect de l'image de Dieu, c'est que dans l'homme, c'est que c'est une attitude d'amour envers mon prochain. Dieu est amour, il nous aime, il nous a manifesté son amour en Jésus-Christ d'une manière parfaite. De la même façon, on doit s'aimer les uns les autres. Et je vais être un reflet de la gloire de Dieu quand je ne vais pas être centré sur moi, mais quand je vais être centré sur les autres, sur Dieu premièrement, puis ensuite de ça, parce que je veux obéir à Dieu en regardant les besoins des autres, puis en étant là pour servir, puis donner ma vie. Même un Jean va dire, être prêt à mourir pour mon frère. Waouh, Seigneur, tu m'en demandes beaucoup. Mais c'est ça, c'est comme ça qu'on reflète la gloire de Dieu, puis on le voit dans la vie de Jésus. Et finalement, on voit que aussi, évidemment, Jésus dominait sur la nature. À plusieurs moments, il a été capable de dominer d'une manière, je veux dire, divine, même dans son humanité. Il a calmé la tempête, il a multiplié les pains, etc. Il montrait vraiment ce que nous, on n'est pas en mesure d'atteindre, évidemment, mais quelque chose qu'il y avait la domination sur toute chose aussi. Donc, en regardant Jésus-Christ, qui est l'image parfaite de Dieu, on apprend que cette image, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être un reflet de la gloire de Dieu, en étant dévoué à Dieu entièrement, en cherchant à vivre d'une manière sainte, sans jamais pécher, en étant dévoué envers notre prochain, puis en dominant sur la terre comme Dieu nous a donné cette autorité-là sur la terre pour être son représentant. Il me reste un petit point, un gros point, mais je vais essayer d'y aller rapidement. Il y a quelque chose qui est important de comprendre. C'est qu'à un certain moment donné, l'image de Dieu, c'est complètement dépravée. Lorsqu'on regarde à Jésus-Christ, on voit l'image parfaite de Dieu. Mais est-ce que l'image de Dieu était là, présent dans Adam et Ève à l'origine? À l'origine, l'homme était dans l'image de Dieu à l'origine. L'homme était dans une capacité de pécher ou de ne pas pécher. En réalité, au commencement, l'homme était capable de ne pas pécher. Il avait cette capacité-là. Il avait la capacité d'être entièrement dévoué à Dieu, d'être saint et de marcher dans la justice. Par contre, il avait aussi la capacité de pécher, c'est-à-dire la liberté de choisir ce qu'il veut et de désobéir à Dieu. Il avait cette possibilité-là et c'est ce qui s'est produit. Et qu'est-ce qui s'est produit avec l'image de Dieu au moment de la chute? C'est que l'image de Dieu a été pervertie. En désobéissant à Dieu, le péché est entré dans le monde et l'homme a été complètement corrompu. Il n'a pas entièrement perdu l'image de Dieu, par contre. On voit dans Genèse 5, dans Genèse 9, entre autres Genèse 9, où ce que Dieu va donner un commandement de ne pas tuer un homme. Pourquoi? Parce qu'il a été créé à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Et donc, l'homme, malgré le péché, n'a pas entièrement perdu l'image de Dieu, mais cette image-là a été complètement dépravée. Et l'homme a perdu la capacité de véritablement être saint, de marcher dans la justice. Et maintenant, comme le dit Augustin, l'homme est incapable de ne pas pécher. Si à l'origine, il était capable de ne pas pécher, et il avait quand même une certaine capacité de pécher à ce moment-là, après la chute, l'homme est incapable de ne pas pécher. Et on voit en plusieurs passages dans les Écritures comment l'homme est injuste. Romains 3, 10, qui cite le psaume 14, nous dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et à cause de ça, à cause du péché, l'image de Dieu s'est pervertie dans l'homme. Et David va dire dans le psaume 51, « Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Et depuis Adam, la nature pécheresse étant transmise à toute la race humaine, qui fait que cette image de Dieu qui était bonne à l'origine est complètement pervertie et dépravée. Dans sa grâce, Dieu ne veut pas nous laisser l'être humain dans cet état-là. Dieu veut renouveler cette image-là. Dieu veut nous recréer pour qu'on puisse être en mesure de refléter la gloire de Dieu puis être à son image. Et dans sa grâce, Dieu a voulu restaurer cette image-là dans l'être humain qui était corrompu par le péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais par la rédemption qui est en Jésus-Christ, l'homme pécheur est maintenant renouvelé à l'image de Dieu. Par la régénération qui vient du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance. Plusieurs passages nous parlent d'une œuvre du Saint-Esprit, entre autres dans Tite, chapitre 3, qui nous renouvelle, qui transforme nos cœurs pour qu'on puisse être en mesure maintenant de refléter l'image de Dieu puis de grandir à l'image de Jésus-Christ. Cette régénération-là, c'est la nouvelle naissance, une recréation avec la capacité de refléter l'image de Dieu. Ça, c'est l'image de Dieu renouvelée. Un verset très important pour cet aspect-là de la doctrine de l'image de Dieu, c'est 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une création renouvelée. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et une fois qu'on est transformé par la grâce qui est en Jésus-Christ, par la foi en lui, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur veut nous faire maintenant grandir à l'image de Jésus-Christ. Le Saint nous donne son esprit pour qu'on puisse être en mesure maintenant de refléter l'image de Dieu. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Fait que cette image-là qui était là au départ, qui était complètement dépravée, Dieu la restaure en Jésus-Christ pour qu'on puisse refléter à nouveau la gloire de Dieu. Et ça, c'est le but de notre vie, refléter la gloire de Dieu. Et avec toutes les difficultés que ça l'entraîne, parfois on tombe, mais notre désir maintenant, c'est de grandir à l'image de Dieu dans la sainteté pour le refléter sa gloire. Oui. Les choses anciennes sont passées, ça veut dire à l'époque où j'étais, j'étais pas en relation avec Dieu, j'étais séparé de Dieu complètement. Ma condamnation, c'était la mort éternelle, l'enfer pour l'éternité. Je n'étais pas en mesure de glorifier Dieu. Dieu vient transformer tout ça. Il vient de faire de moi une nouvelle création. Je suis recréé maintenant pour pouvoir être réconcilié avec Dieu, marcher dans sa volonté, puis avoir la vie éternelle. Donc, tout ça s'est passé. C'est transformé tout ça. On a une nouvelle vie maintenant. Et ça, c'est ce que Dieu a voulu faire. Évidemment, on lutte de jour en jour, à chercher à refléter l'image de Dieu. Mais un jour, Dieu va nous transformer d'une manière parfaite pour qu'on puisse le refléter. Et à la fin des temps, Dieu va restaurer toutes choses. Puis on va avoir la capacité maintenant. Si maintenant, on avait la capacité de ne pas pécher, puis que là, après, par la chute, on était incapable de ne pas pécher, Dieu nous redonne la capacité de ne pas pécher, de dire non au péché. Mais ultimement, on aura incapable de pécher, parce qu'on va être rendu parfait. À la fin des temps, lorsqu'on va être avec le Seigneur, le péché n'existera plus. On ne sera pas capable de pécher. Ça va être une création encore mieux que le départ, parce qu'au départ, on avait le choix, on pouvait pécher. Là, on n'aura plus cette capacité-là. Dieu va l'enlever complètement, puis on va être en mesure de refléter sa gloire d'une manière parfaite. Et ça, c'est la doctrine de l'être humain. On a pris beaucoup de temps. Je vais laisser quelques questions de réflexion dans les notes, si vous voulez réfléchir à ça cette semaine. C'est bon, puis ça nous rappelle que là où on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? Glorifier Dieu dans nos relations, dans tout ce qu'on fait, et qu'on puisse l'honorer pour qui il est. On va se courber. Seigneur notre Dieu, je veux te dire merci pour ta grâce envers nous. Merci parce que tu es bon. Tu ne nous as pas laissés dans cette incapacité, Seigneur, à te glorifier. On était morts spirituellement, Seigneur, ta parole nous dit. Mais en Jésus-Christ, tu as tout accompli pour qu'on puisse être restaurés à ton image, pour qu'on puisse être en mesure de te glorifier et trouver le bonheur en toi, Seigneur. Lorsque je réfléchis à ta grâce, Seigneur, mon cœur est ému parce que tout ce que je méritais, c'était d'être séparé de toi et j'étais tellement malheureux sans toi. Et même quand je m'éloigne de toi parfois, Seigneur, mon cœur est malheureux lorsque je ne suis pas près de toi. Merci, Seigneur, de cette relation intime. Merci pour ton esprit qui nous a régénérés, qui nous rend capables maintenant de vivre pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à rechercher ta gloire en toutes choses dans nos vies et qu'on puisse accomplir ce but pour lequel tu nous as créés et trouver notre joie à le faire, à t'honorer, à te servir. Merci, Seigneur, pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole. Et puisses-tu être glorifié à travers nos louanges dans le temps qui va suivre et continuer de disposer nos cœurs à ta parole, Seigneur. C'est notre désir d'être transformé par toi. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.